Je vais essayer d'être bref parce que c'est pas moi qui suis censé vraiment faire le message d'aujourd'hui. Moi, je me charge de l'introduction. Et ensuite, ma femme viendra pour le corps du message. Du coup, Dieu répand son esprit sur toute chair, il appelle, il équipe, il utilise toutes les générations, les différents sexes, statuts sociaux, sans distinction. Nous sommes réconciliés grâce, avec lui grâce au sacrifice de Jésus. Il nous a donné, la Bible dit, le ministère de la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas facile, mais quand il y a l'Esprit de Dieu qui est sur nous, là, on peut exercer ce ministère, cet appel à amener la réconciliation dans ce monde. Amen. Ce monde où il y a la division, Dieu nous permet d'amener la réconciliation afin qu'un maximum d'hommes et de femmes soient à leur tour réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Ensuite, on avait vu aussi qu'en tant qu'équipe dirigeante de Connect, il y a eu ce long processus depuis l'implantation de l'Église, il y a 10 ans à peu près, et que en tant que Connect Montélimar et Connect Grenoble, on avait vraiment eu à cœur aujourd'hui d'enlever toute ambiguïté et de nous positionner sur cette conviction de la validité de l'anciennat féminin. Et c'est quelque chose dans lequel on avait grandi, dans lequel on avait cheminé. On avait aussi cheminé avec notre famille d'église et notamment avec notre cher Simon. Et que ben voilà, dans ces échanges qu'on a eus toutes ces années, au bout d'un moment, on est arrivé à cette conclusion que on ne pouvait pas rentrer. En fait, on n'avait jamais été officiellement faisant partie de cette famille dirigée par Simon. Et que, du coup, voilà, on a convenu et ça a été vécu dans la paix, dans l'amour, de rejoindre un nouveau réseau qui s'appelle Ariel et qui fait partie du réseau Nouvelle Connexion. En fait, vous connaissez beaucoup de gens qui sont dans ce réseau, l'Assemblée chrétienne de Toulouse avec Fabienne Ponce, il y a les Duby à Annecy de qui on est très proche, qui sont dans ce réseau, l'Église des Sources à Avignon qui est dans RNC aussi, beaucoup de gens comme ça qui sont des amis. Et puis il y a Elvire qui est venue prêcher il n'y a pas très longtemps, qui est membre de l'équipe apostolique d'Ariel. Et puis elle va revenir au mois de novembre, ça va être super. Et du coup, mais ça, je veux vraiment le clarifier parce que des fois j'ai des échos, je me dis mince, on fait pas bien passer le message. Il n'y a aucune rupture relationnelle avec l'église King's Arms à Bedford. On va continuer notre relation. En fait, la réalité, c'est que rien ne va changer. Oui, on va avoir des relations en plus avec RNC et Ariel, mais on continue notre relation avec King's Arms qui reste notre maison mère. On ne peut pas renier notre maison mère, c'est là où on est né en tant qu'église. Et du coup, ben voilà, au mois de février, on sera encore toute une équipe de leaders à nous rendre à Bedford. Et enfin, moi, il y a des leaders de King's Arms avec qui je suis ami depuis plus de 20 ans. Voilà, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc, ça, c'est une histoire de institutionnelle, mais les relations restent les mêmes. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est les relations. Voilà, RNC fait bien sûr partie du CNEF et aussi de la Fédération protestante de France. Donc voilà, vous découvrirez un peu plus tout ça dans les mois à venir. Et oui, on voulait, parce que tout ça, évidemment, c'est pas Mathieu, c'est pas Emmanuel, c'est un positionnement d'équipe, hein, mûri de longue date. Et on voulait bien sûr vous rassurer dans le fait qu'on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit, d'ailleurs, quand on étudie, et je peux vous dire qu'on a étudié, lu, prié, on se rend compte que oui ou non à l'anciennat féminin, ça peut très bien être justifié bibliquement. Les deux peuvent être très bien justifiés bibliquement. Et nous, c'est juste qu'on a senti Dieu nous dire, voilà, aujourd'hui, de se positionner. Mais on a toujours conduit l'Église, tous les quatre d'abord, puis tous les six, avec Léa Lépian. Et ça ne va pas changer, ça a toujours été notre fonctionnement. Mais on peut très bien dire, ah ben non, moi, quand je lis la Bible, c'est pas ça que je comprends. Et c'est pas grave. L'important, c'est de rester dans la bienveillance et dans l'honneur et de dire, ben, ok, il n'y a pas de souci. On est, voilà, on est tous, il n'y a pas d'intermédiaire, comme je dis souvent, entre Dieu et nous. On est tous remplis du Saint-Esprit. On est tous les enfants de Dieu. On a tous la parole de Dieu. Et c'est personnellement qu'on peut l'interpréter, même si, ben voilà, il y a des enseignements, il y a des choses pour nous aider. Donc voilà. Et du coup, oui, aussi dire que il y a des choses dans la Bible, des doctrines, des choses qui sont écrites au crayon, au stylo et dans le sang. Et le crayon, on va dire, ben, ça peut être toutes les choses. Par exemple, est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool ou pas? Vous avez des dénominations entières qui disent, ben non, les chrétiens ne peuvent pas boire d'alcool. Bon, en France, ce serait plus compliqué, mais c'est le cas. Ça, c'est des choses, voilà, chacun peut un peu se positionner. Ou alors ta vision de la fin des temps, les amillénaristes, les prémillénaristes, les voilà, enfin, rien que de dire ça, ça nous met un peu des questions. Mais ça, c'est des choses comme ça gravées au crayon. Ensuite, il y a les choses qui sont gravées au stylo. Par exemple, est-ce que le baptême doit absolument être par immersion totale, ou est-ce que qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Est-ce que les dons de l'esprit sont toujours valables pour aujourd'hui? Ben ça, vous avez des courants entiers d'église qui pensent que non. Mais est-ce qu'ils ne sont pas pour autant nos frères et sœurs en Christ? Bien sûr que non. Donc voilà, ça c'est plutôt des mouvements, des réseaux, des mouvements, des familles d'églises qui vont pouvoir se positionner sur tel ou tel point comme ça. Et puis après, vous avez tout ce qui est gravé dans le sang et les doctrines vraiment fondamentales. Est-ce que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme? Ça, c'est vraiment le salut, par exemple, par la foi. Ça, ce sont vraiment les doctrines fondamentales de la foi chrétienne qui ont été gravées dans le sang, on pourrait dire, lors du credo de Nicée, je crois que c'était vers les années 300. Et ça, c'est des choses, voilà, c'est notre profession de foi en tant que chrétien du monde entier. Ça, c'est vraiment gravé dans le sang. Ben, l'histoire des anciens hommes et femmes, ça, on pourrait dire que c'est plutôt le stylo. C'est le stylo, voilà, c'est en tant qu'église ou en tant que mouvement, on peut se positionner et dire nous, on pense que c'est plutôt ça. Mais si tu penses que c'est plutôt pas ça, eh ben, il n'y a pas de souci. On reste frères et sœurs ensemble. Vous voyez, les amis, c'est important de hiérarchiser ces choses-là et pour pas que ça crée de troubles au milieu de nous. Et du coup, pour finir cette introduction, encore une fois, par amour pour tous ceux qui ont raté le week-end de rentrée, ne recommencez jamais. Non, je plaisante. Je plaisante. En fait, il y a trois aspects sur lesquels on veut couvrir cette question-là. On était sur les textes de la Genèse, donc ce que je vais vous redire maintenant rapidement. Aujourd'hui, Emmanuel va traiter de Jésus et les femmes. Le troisième message sur vraiment ce thème-là par rapport aux femmes, on fera Paul et les femmes. Comme ça nous permettra de vraiment... au début, on voulait faire plus court que ça, mais on a vraiment envie d'aller au fond de plusieurs aspects différents. Et du coup, Paul et les femmes, ce sera pour la prochaine fois. Donc dans la Genèse, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que dans Genèse 1, 27, 28, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. » Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. » Dieu crée les humains, les hommes et les femmes et... si quand tu lis ça attentivement, tu remarques que tu peux pas accomplir la mission de Dieu s'il n'y a pas un homme et une femme. Tu peux pas te multiplier seul. La société nous essaye de nous faire croire que si c'est possible, mais la réalité c'est que c'est pas possible. C'est que c'est hommes et femmes ensemble qui peuvent remplir le mandat de Dieu pour les êtres humains, pour la terre. Amen. Amen. Les hommes et les femmes, voilà, qui ne sont pas interchangeables, tous les deux ont reçu les mêmes instructions, sans distinction liée au genre, et c'est ensemble qu'ils sont appelés à accomplir cette mission. Ensuite, on avait vu Genèse 2, 18 à 24. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et on avait dit que... jusqu'à présent, dans la Bible, tu as lu toutes les pages d'avant, il n'y avait aucun problème. Aucun problème ne s'était passé. Il y avait la création, Dieu, wow, il fait que des choses, bon, très bon les êtres humains. Mais d'un coup, il a dit, oh là là, ça, c'est pas bon. D'un coup, il y a un problème. C'est le premier problème de la Bible, le premier problème de l'histoire de l'humanité, le premier d'une longue série. Mais ce problème, c'était quoi? C'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu est un Dieu relationnel et il voulait que l'homme soit en relation. Il voulait qu'il y ait une altérité et il voulait pas que tous les hommes soient pareils. Il n'a pas créé un genre et que voilà, on soit tous les mêmes exactement. Non, il voulait qu'il y ait une altérité, mais aussi qu'il y ait de la différence et de la complémentarité. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et on s'était arrêté sur le mot aide. En hébreu, Ezer. Et qu'est-ce que veut dire Ezer? C'est pas une vague aide, une assistante ou une secrétaire. Des fois, je rigole avec Emmanuel, quelqu'un m'appelle et tout. Je dis, ah ben, je vous passe ma secrétaire et je lui tends le téléphone. Bon, je me prends une bonne tape par la même occasion. Mais c'est pas du tout ce d'aide-là dont il est question. Non. Ezer, c'est utilisé 15 fois sur 19 dans la Bible pour parler de Dieu qui aide les hommes. Donc, Ezer, c'est quelqu'un en position de puissance et d'autorité qui aide quelqu'un qui en a besoin. Ève n'est pas une assistante, mais c'est la mutualisation de l'appel d'Adam et Ève qui permet d'accomplir le mandat divin. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est bon. Et enfin, pour finir sur cette introduction et ce petit rappel de ce qu'on avait vu la semaine dernière, Genèse 3, verset 16. Merci mon John. C'est le moment où ça part en cacahuète. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Donc là, c'est bien sûr la chute. Hein. Adam voit ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle le tend à Adam qui en mange aussi. Et du coup, ben voilà, il y a la séparation entre Dieu et les hommes. Il y avait une seule règle à respecter. On n'a pas été fichu de la respecter, mais je pense qu'on aurait tous fait pareil. Et du coup, il y a cette séparation entre Dieu et les hommes qui est venue. Donc, qui dit chute, dit ben, tout un tas de malédictions, parce que le péché a des conséquences. Et du coup, Dieu dit, je rendrai tes grossesses très pénibles à la femme, et tu mettras les enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais on avait vu qu'il s'agit d'un désir inapproprié, mais lui te dominera. Et là, c'est la première fois dans la Bible qu'il y a une notion de hiérarchie entre l'homme et la femme. Il n'y avait pas d'hiérarchie avant, le mandat était vraiment, c'était quelque chose qu'il a donné à l'homme et à la femme, sans distinction. Et là, d'un coup, il y a une hiérarchie, lui te dominera. C'est la conséquence du plan, de la chute, et ça n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est cette mutualité entre hommes et femmes ensemble. Amen. Amen. Eh bien, je vais appeler maintenant mon aide, mon Ezer, et voilà. Et vous redire que qu'est-ce que je suis béni d'avoir Emmanuel, ben déjà pour femme, mais ensuite comme co-leader dans l'Église. Voilà, je suis extrêmement fier de toi encore, et c'est un bonheur de faire tout ça avec toi. On prie pour elle. Eh bien, Seigneur, merci pour ce qu'Emmanuel maintenant va nous dire sur Jésus et les femmes. Seigneur, merci pour les trésors de ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à recevoir ton enseignement, Seigneur. Bénis Emmanuel, Seigneur, merci parce qu'elle est totalement libre en toi, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci. C'est tellement sécurisant d'avoir une couverture. Et voilà, je me place sous la couverture de Dieu et aussi de mon mari. Et c'est cette posture-là que je vous parle ce matin. Et en préparant cette semaine ce message, on avait envie de s'arrêter sur Jésus et les femmes. Et il y a Bill Johnson, un pasteur qu'on aime beaucoup, qui dit « Jésus, c'est la théologie parfaite ». Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait, c'est important. Jésus, c'est notre modèle. C'est à lui qu'on est appelé à ressembler. Et c'est important de regarder comment il était quand il était sur la terre et qu'est-ce que ça nous enseigne. Jean 1, verset 14. Jésus est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. C'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu habiter parmi nous. Et qui nous a révélé le Père, et qui nous a montré le chemin et qui il était. Et en fait, nous, comme je disais, on est appelés à devenir comme Jésus, car on a été créés à son image. Hein, on revient au verset de Genèse 1. Et en fait, c'est important de comprendre que il n'y a que comme on agit, quand on agit comme Dieu, qu'on est réellement nous-mêmes. Parce qu'on est créé à son image, quand on se comporte, quand on agit comme Dieu, et ben en fait, c'est là qu'on est réellement nous-mêmes. Éphésiens 5, versets 1 à 2, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Voilà, on est appelé à être des imitateurs de Dieu. Et Dieu s'est fait homme à travers Jésus qui est venu sur la terre, et on est appelé à devenir des petits Christ. Ça veut dire ça, être chrétien, c'est être des petits Christ. Donc partout là, je ne sais pas combien on est ce matin, mais vous êtes des petits Christ. Partout où vous allez, vous représenter Jésus, partout où vous êtes. Et on est appelé à le refléter par nos actes, par nos paroles, dans nos pensées. On est appelé à refléter Jésus. Et on a besoin du Saint-Esprit. Hein. On ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire par nos propres efforts. C'est important d'avoir une discipline de vie en tant que chrétien, en tant que disciple, de se nourrir de la parole de Dieu. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu. Et je ne sais pas, je pense qu'on a tous parfois eu, ou on peut encore avoir, cette fausse image de Jésus quand il est venu sur la terre. On peut l'imaginer comme un homme qui était peut-être bien poli, gentleman, et il l'était dans un sens, hein, je ne dis pas qu'il ne l'était pas, mais voilà, qui venait partager sa sagesse, donner des paroles comme ça. Mais, et puis quand il voyait des enfants, bah, il leur faisait un petit bisou sur le front, parce qu'il disait « non, il peut venir avec moi ». Et on peut avoir cette image qui est vraie de Jésus, mais qui ne reflète pas entièrement qui était Jésus. Et en fait, parfois, on a un petit peu domestiqué Jésus. Vous savez, Jésus, il est appelé le lion et l'agneau. Donc, il est les deux à la fois. Et parfois, on limite Jésus quand on pense à lui, les images qu'on a de lui, représentations. On le limite à l'agneau. Et oui, il est l'agneau. Il est venu sous la forme d'un petit bébé innocent sur la terre pour montrer, voilà, son caractère. Mais il est aussi le lion de Juda. Et parfois, on a domestiqué ce lion de Juda et on l'a mis dans une espèce de cage, dans un zoo religieux. Et c'est important de, voilà, derrière les barreaux d'une cage. Mais Jésus, il est venu pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, mais aussi pour délivrer les captifs et libérer les prisonniers. Et c'est important de, à la fois, recevoir Jésus comme cet agneau, mais aussi comme ce lion, et de ne pas le mettre dans une boîte, dans nos boîtes parfois. Et quand on lit les évangiles, c'est, en fait, on se rend compte que Jésus, il était hors norme. Il était complètement à contre-courant de sa culture, de ce qui se passait. Et aujourd'hui encore, Jésus, il peut être à contre-courant de nos attentes, de nos projections, des fausses images qu'on peut avoir de lui. Et même quand il est venu sur la terre, son peuple a eu du mal à le reconnaître parce que c'était pas le Messie qu'ils attendaient. Ils attendaient un roi militaire qui allait les délivrer par la force, qui allait montrer son pouvoir, son autorité d'une certaine façon. Et il est venu sur la terre et il a montré son pouvoir et son autorité, mais pas comme on l'attendait. Et nous encore aujourd'hui, on peut limiter Jésus et ne pas l'accueillir parce que tel qu'il est vraiment, en fait, parce qu'on a ses attentes qui sont peut-être biaisées de qui il est. Et pour bien comprendre, en fait, qui est Jésus, c'est aussi important de comprendre le contexte dans lequel il est venu et la culture de l'époque. Et en fait, quand on lit les évangiles en comprenant, vous savez, il y a 8 ans, je crois, on a été en Israël pour la première fois et ça nous a ouvert une... Alors, c'est pas l'Israël, on n'a pas fait un voyage dans le temps, au temps de Jésus, hein. On était en 2015, mais rien que d'aller là-bas, on y a été juste une semaine, mais rien que de goûter un petit peu à la culture, on a ouvert les yeux différemment, on a lu, ça nous a éclairé sur comment on lisait les évangiles, parce qu'on a découvert des choses. C'est incroyable, rien que d'aller sur les lieux, de dire, ben voilà, je me souviens, on était au bord du lac de Tibériade, et de dire, mais Jésus, il était là, c'est C'est juste incroyable, on lit plus pareil après les mêmes passages. Et ben c'est la même, de la même façon, c'est important en fait de comprendre le contexte et la culture pour réaliser qu'en fait l'attitude de Jésus, elle était hors norme. Et elle était souvent très offensante pour en particulier les pharisiens. Mais on peut tous avoir de la religiosité dans nos cœurs et être offensés par des choses que disait Jésus. Et parfois Jésus, il n'a pas ménagé ses disciples, hein. Il a pas ménagé les pharisiens, mais il n'a pas ménagé les disciples non plus. Il a eu des paroles qui peuvent nous sembler très dures quand on les lit. Mais c'est pour ça que, en fait, ne nous laissons pas offenser, mais soyons ouverts pour essayer de comprendre. Et vous savez, je vais parler juste rapidement des femmes dans ce contexte-là. Donc, les femmes dans le Moyen-Orient, à l'époque où Jésus est venu, étaient considérées comme inférieures aux hommes, et y compris dans la culture juive. Vous savez, il y avait la Torah, et puis il y a ce qu'on appelle le Talmud, c'est toute la loi orale qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais qui était dans le judaïsme. Et j'en ai lu quelques extraits qui parlaient des femmes, c'était pas vraiment... c'était très offensant. Ça, pour le coup, c'était offensant. Il y avait des paroles qui disaient « mieux vaut avoir... » Je ne sais plus, enfin, c'était... Je dirais des bêtises, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais bon, bref, les femmes n'étaient pas du tout considérées comme des êtres de valeur et plutôt très, très inférieures aux hommes. Elles étaient considérées comme des citoyennes de seconde zone. Dans la synagogue, par exemple, les hommes et les femmes n'adoraient pas ensemble. Il y avait une section qui était réservée aux hommes et puis une section réservée aux femmes. En public, les hommes et les femmes aussi étaient séparés. Ils avaient des rôles définis et ne se mélangeaient pas. Et c'est important de, par exemple, même si en public, c'est encore des choses qu'on peut voir dans des cultures du Moyen-Orient aujourd'hui, où les femmes ne pouvaient pas sortir sans quelqu'un, un membre de leur famille. Les femmes ne pouvaient pas parler à un homme s'il n'était pas, il ne faisait pas partie de leur famille. Et même en public, j'ai lu que des femmes ne pouvaient pas parler aux hommes, même de leur famille, en public. Hein. Et donc, il y avait vraiment cette séparation entre les hommes et les femmes. Et pourtant, Jésus, on voit dans les évangiles qu'il y avait plusieurs femmes dans son ministère qui ont été présentes. Et il était accompagné par plusieurs femmes tout au long de son ministère. Donc, il y avait sa mère, Marie, bien sûr, mais il y avait aussi d'autres femmes dans la Bible. Et c'est intéressant de regarder comment il les traite et comment il se comporte avec elles. Quelle est son attitude à leur égard? Et comment il leur parle? Et on voit que, quand on va aller un petit peu plus loin là-dedans, on voit qu'il ne les limite pas. On voit qu'il ne leur met pas un plafond de verre, mais qu'il les libère à la fois dans ses paroles et dans ses actes. Et ça, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire. Vous savez, Jésus, c'était un rabbi, c'est-à-dire un maître, et un maître, il avait des disciples. Et ses disciples, c'était seulement des hommes juifs. C'est pour ça qu'on parle des 12. Si Jésus était venu sur la terre et que parmi ses disciples, il avait eu des païens ou des femmes, je pense qu'il n'aurait pas été, il aurait été écarté tout de suite. Donc, il avait ses 12 hommes, mais avec ces 12 hommes, il y a des femmes qui sont mentionnées, même si elles ne font pas partie des 12 officiels. Et on voit que Jésus, premièrement, ces femmes, en fait, même si elles ne font pas partie des 12, elles ont le droit de prendre la posture de disciples. Et par rapport à ça, vous connaissez le passage dans Luc 10 de Marthe et Marie, où il y a Marthe qui s'affaire à tout préparer pour Jésus parce qu'il vient chez elle, donc elle est en train de faire la cuisine, de tout préparer et tout. Et puis il y a Marie pendant ce temps-là qui s'est assise au pied de Jésus et qui l'écoute et qui reçoit son enseignement. Et Marthe, elle vient voir Jésus, elle est en colère, elle dit « Mais pourquoi tu dis rien à ma sœur ? Je suis en train de faire tout le boulot toute seule et elle est là à t'écouter. » Et Jésus lui dit « Elle a choisi la bonne part. » Et en fait, en faisant ça, il l'affirme dans cette posture où elle vient à ses pieds écouter. Et se mettre au pied de quelqu'un, littéralement, c'était prendre cette posture de disciple qui vient écouter et recevoir l'enseignement de son maître. Deuxièmement, les femmes, elles sont considérées comme des disciples. Matthieu 12, versets 46 à 50. « Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui parlait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit « Voici ma mère, voici mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur. » Et ma mère. Et en fait, ça, c'est encore une parole de Jésus qui vient accueillir et affirmer les femmes qui sont des disciples. Elles sont considérées comme disciples. Troisièmement, les femmes s'occupaient du ministère de Jésus. Elles voyageaient avec lui et avec les douze. Elles le servaient. Donc ça, on peut retrouver Marc 15, verset 41. Je ne vais pas lire toutes les références. On voit aussi dans Jean 12 qu'une femme a oint. C'est l'onction à Béthanie, donc dans certains évangiles c'est Marie-Madeleine, mais dans d'autres il n'est pas mentionné son identité. Une femme a oint Jésus, la femme au parfum, et c'est important de comprendre ça aussi, que cette action de oindre quelqu'un, c'était une action qui était réservée aux prêtres. Donc c'était pas juste, elle lui a mis un coup de parfum, c'était une action sacerdotale. Et n'importe qui ne pouvait pas le faire. Et là, j'ai juste l'exemple en tête, quand Samuel est venu chercher David, vous savez, dans l'Ancien Testament, pour le oindre, c'était Samuel, le prophète, qui l'a oint. C'était pas n'importe qui. Et cette action de oindre Jésus, c'était quelque chose qui était normalement réservé aux prêtres. Cette femme, on savait que c'était une femme de mauvaise vie. Mais pourtant, Jésus, il a reçu cette action. Il a reçu pleinement cette onction de sa part. Et ce n'était pas du tout anodin. Et il a dit, elle prépare mon embaumement. Elle prépare c'était une préparation de même de sa résurrection. Donc c'est important de réaliser ça, que ce geste-là, non seulement de la femme, c'était extravagant, c'était osé, c'était déplacé dans le contexte dans lequel elle était, mais la réaction et la réponse de Jésus, c'était tout aussi dérangeant et hors norme et pas du tout dans les attentes, le fait qu'il ait reçu ce geste-là de la part de cette femme. Autre chose, les femmes ont été envoyées comme des témoins. Matthieu 28, 10, Jésus, quand il est ressuscité, les premières témoins, ce sont des femmes qui viennent au tombeau. Et Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Jésus les envoie. Ensuite, quand l'Esprit Saint est descendu dans la chambre haute, acte 1, verset 14, elles faisaient partie, elles étaient présentes dans cette chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Et ça, c'était complètement, c'est la naissance de l'Église, hein, vous savez, et c'était encore une fois complètement à l'encontre des pratiques. Dans la synagogue, on a dit, il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, c'était bien séparé. Là, dans la chambre haute, ils sont tous ensemble et tous et toutes sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et puis, on voit Jésus aussi dans ses paraboles qu'il a pu utiliser des femmes, par exemple dans Luc 18, la veuve et le juge inique, ou la pièce d'argent qui est perdue. Et on voit que c'était aussi, il a aussi utilisé les femmes dans ces paraboles. Et puis, alors là, ce que je vais dire maintenant, je l'ai lu, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'aimais bien cette approche, en fait, on va un petit peu passer en revue, là je vous ai cité plusieurs choses de façon un peu générale sur comment Jésus, il était avec les femmes. Et puis, j'ai lu quelque chose qui m'a marqué, c'est de relire un petit peu plein de passages dans l'Évangile qui marquent toutes les premières fois où Jésus s'est révélé aux femmes ou à travers les femmes. Et donc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, on va prendre Marie, pour commencer un petit peu chronologiquement. Marie, dans Luc 1, c'est elle qui a reçu la première annonce de l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'ange Gabriel qui est venu la voir et qui lui a dit, à elle, la première, que elle allait porter Jésus dans son ventre, elle allait être la mère du Sauveur, et que Dieu allait mettre ce bébé dans son ventre. Et c'est elle qui reçoit cette révélation de l'incarnation de Dieu sur la terre. On peut se dire, peut-être l'ange, il aurait pu aller voir Joseph d'abord, ou alors le père de Marie pour le prévenir, ou alors le prêtre de la synagogue pour le prévenir. Non, il est venu d'abord voir Marie. Donc ça, c'est là. C'est une première fois où Jésus s'est révélé à une femme. Une autre première fois, c'est la Samaritaine dans Jean 4. Alors, je vais juste résumer le passage. Jésus, il est fatigué, ils ont marché avec ses disciples et il se retrouve en Samarie, dans une ville qui s'appelle Sichar. Et les Samaritains étaient vraiment un peuple qui était séparé des Juifs. Ils étaient ennemis, ils ne s'adressaient pas la parole. Et Jésus se retrouve à midi, en plein jour, à un puits. Et il dit à ses disciples, allez me chercher à manger, j'ai faim. Et pendant qu'il est à ce puits, il y a une femme qui arrive seule pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et puis, il y a toute une conversation qui commence entre eux. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus, pour la première fois, se révèle en tant que Messie. C'est la première fois dans l'évangile de Jean où il se révèle en tant que Messie. Et c'est à une femme qu'il le fait. Et c'est important, pareil, de revenir au contexte. Donc, c'est une femme. Et comme j'ai dit au début, les hommes en public, hors de la maison, n'étaient pas censés parler aux femmes si elles n'étaient pas de leur famille. Et même si elles étaient de leur famille en public, ils ne pouvaient pas. Elle était seule. Et en plus, c'est une Samaritaine. Et les Samaritains et les Juifs, comme je l'ai dit, étaient ennemis. Et ils lui demandent de l'eau. Et en fait, en faisant ça, il se met dans une position où il est vulnérable, où il a besoin d'elle, et en plus, en lui demandant de boire dans sa cruche, il va se souiller. Et vous savez, les Samaritains et les Juifs, voilà, non seulement ils ne se parlaient pas, mais vraiment, il ne fallait pas qu'ils se touchent, pas qu'ils se partagent, enfin, qu'ils ne partagent rien du tout. Et là, il va utiliser même la cruche, même sa cruche à elle. Et Jésus, en fait, en initiant la conversation, il renverse une barrière. Et il ne va pas juste lui dire « j'ai soif » ou « salut, tu vas bien ». Il va avoir vraiment une conversation hyper profonde et il va même lui révéler qui il est. Et sachant que quand on lit l'évangile de Jean, il ne s'est pas encore révélé en tant que Messie à ses disciples. C'est à elle qui dit la première qu'il est le Messie. Verset 25 dans Jean 4, la femme lui dit, je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Et quand celui-ci sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et en fait, cette rencontre, ça la transforme complètement. Et du coup, elle devient une messagère de bonnes nouvelles. Alors que Jésus lui donne aussi une parole de connaissance, il lui dit, va chercher ton mari. Et puis elle dit, j'en ai pas. Elle dit, oui, tu fais bien de dire ça, parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs. Et ça la marque, et je pense que ça ouvre son cœur. Et on peut, à travers ça, on peut comprendre que cette femme, elle était certainement aussi marginalisée. Elle était certainement tenue à l'écart. Elle avait une mauvaise réputation dans sa ville et dans son entourage. Et pourtant, Jésus lui révèle son identité. Et contrairement à d'autres personnes et à d'autres guérisons que Jésus a opérées. Vous savez, souvent on lit dans les guérisons, je pense là aux lépreux dans Marc 1, et Jésus souvent il leur dit « ne dites à personne hein, ». Quand il a guéri la fille de Jaïrus, il dit « ne le dites pas, ne dites rien, ne dites rien ». Mais là, il la laisse aller témoigner. Il la laisse retourner dans son village et raconter ce qui s'est passé. Jésus ne lui dit pas de se taire. Et même, il va rester 2 jours de plus à Sichar. Il va prolonger son séjour parce que les gens sont... Cette femme, elle est tellement bouleversée par cette rencontre que quand elle arrive dans son village, elle dit « Venez voir cet homme, il m'a dit tout ce que j'avais fait, c'est lui le Messie. » Et les gens sont complètement bouleversés et se convertissent. Et du coup, Jésus, il reste 2 jours de plus. Et au verset 34, ça m'a marqué, il y a les disciples qui reviennent avec, on peut supposer, ça y est, ils ont trouvé à manger, ils arrivent pour donner à manger à Jésus. Et Jésus, il n'a plus faim. Et il leur dit, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Et ça m'a touchée quand j'ai lu ça, de dire, waouh, les disciples, ils arrivent, déjà, ils sont choqués de voir que Jésus, il parle avec une femme. Et en fait, Jésus, il est rassasié de cette rencontre qu'il a eue avec cette femme et il n'a plus faim parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Et cette femme, on peut donc la considérer comme une des premières missionnaires. Une autre rencontre marquante où Jésus s'est révélé pour la première fois, c'est la Cananéenne. La Cananéenne, c'est une femme donc, qui est venue et qui réclamait la guérison de sa fille, voilà, à Jésus. Et Jésus lui dit qu'il n'est pas venu pour les païens, il est venu pour les juifs. Et la femme lui dit, parce que Jésus utilise l'image des miettes, je crois, des chiens. Et elle réclame les miettes, elle dit, mais les petits chiens, ils ont droit d'avoir les miettes. Et Jésus voit sa foi et il guérit sa fille. Et c'est la première conversion d'une païenne. Donc ça, c'est le salut qui est annoncé pour les non-juifs. Donc ça, on peut retrouver ça dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Première conversion d'une païenne. Une autre première fois, un enseignement sur la résurrection, où Jésus annonce qu'il va ressusciter. C'est dans Jean 11 et c'est à Marthe. C'est au moment, vous savez, où Lazare, le frère de Marthe et Marie, est mort. Et donc, ils font chercher Jésus parce que Lazare, c'était l'ami de Jésus. Et Jésus arrive et c'est trop tard. Et il a cette rencontre avec Marc. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répond, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ça, c'est le premier enseignement sur la résurrection donné à Marthe. Et puis enfin, les premiers témoins de la résurrection au tombeau, dans Matthieu 28, versets 9 et 10, et Jean 20. Vous savez, Jésus, donc, il rencontre, il est ressuscité, et puis le dimanche matin, il apparaît aux femmes dans le jardin du tombeau. Et donc au début, elles pensent que c'est le jardinier, elles ne le reconnaissent pas. Et puis après, Jésus nomme Marie, il lui dit Marie, elle se retourne et puis elle lui dit Rabouni, ce qui veut dire maître. Ne me retiens pas, dit Jésus, car je ne suis pas encore montée vers mon père, mais va vers mes frères et dis-leur. Et là, il envoie vraiment ces femmes. Selon les évangiles, il parlait que de Marie, puis sinon il y a plusieurs femmes. Mais il les envoie. Et vous savez, le mot apôtre, ça veut dire envoyer. Et c'est beau de voir en fait que Jésus, il libère ces femmes, il les envoie pour qu'elles annoncent la nouvelle de sa résurrection qui va changer le monde. C'était la plus grande nouvelle qu'elle pouvait annoncer. C'était sa victoire sur la mort, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la résurrection. Et il choisit des femmes pour aller apporter cette première, quoi. Et vous savez, à l'époque, le témoignage et la valeur de la parole des femmes, c'était pas la même valeur que la parole des hommes. Alors on peut se demander, on dit, mais est-ce que Jésus, il a voulu saboter sa première, l'annonce de sa résurrection ? C'est de l'auto-sabotage de confier ce message-là à une femme, et pourtant, il l'a fait. Et en ça encore, il vient confronter nos idées reçues sur qui il est, qu'il est complètement à contre-courant de ce qu'on attendait. Et c'est révolutionnaire. Diane Adams, un ami qui viendra pour notre conférence fin novembre, il a dit cette citation, « Ce qui a été perdu dans un jardin » a été restauré dans un jardin. Et en fait, c'est beau de voir ces parallèles entre la Genèse, ce qui a été perdu au moment où Ève et Adam ont choisi de désobéir et de prendre le fruit, Et là, ce qui a été restauré dans ce jardin où Jésus il rencontre cette femme et il lui dit, il la reconnaît, il la nomme, il l'affirme dans son identité, Marie, il la connaît et puis il l'envoie. Va vers mes frères et dis-leur. Va vers mes frères et dis-leur. Et en fait, ce moment-là, c'est l'inauguration d'une nouvelle création dans un jardin, devant le tombeau vide. Jésus, à ce moment-là, il a restauré la place des femmes, la dignité, la confiance qu'il leur fait et l'autorité qu'il leur donne, alors qu'il confie à ces femmes le rôle de témoin de la plus grande victoire de tous les temps. Et en fait, il ne s'agit pas ici de dire « les femmes sont mieux », les femmes ont tout compris, les hommes ont rien compris, ou les femmes sont supérieures, les femmes sont préférées de Jésus. Hein, j'ai pas listé ça toutes ces premières fois, c'est pas ça le message. Mais c'est important de réaliser l'attitude qu'avait Jésus envers elles, qui n'était pas à les mettre dans une boîte, à les limiter, à leur dire non, ça c'est pas pour toi, mais qu'il les libérait et qu'il les libérait dans qui elles étaient. Jésus les voit, il les met en valeur, il leur donne de l'importance et il leur fait confiance pour annoncer son message, pour s'occuper de ses affaires. Et elles ont une place auprès de lui, elles ont une place avec lui et elles ont une place dans son appel, dans ce qu'il est venu nous appeler à faire sur la terre. Et on va pas continuer plus loin là pour Jésus, mais j'avais envie qu'on puisse finir en se levant. Et pouvez-vous lever? Et j'avais simplement envie qu'on puisse prier. Et je vais prier.